Bonjour, bonjour les amis. Bienvenue une fois de plus sur Young Adult 2.0. Nous sommes plus que contents parce que aujourd'hui marque certainement la fin de la première saison et nous sommes, je dirais pas épuisés, mais c'est juste comme on est accompli, je pense. Cynthia, on se sent accompli d'avoir pu le faire depuis maintenant septembre 2021, presque 9 mois. Ah, bon, en tout cas, on vous réserve une
Une
surprise.
année scolaire.
L'invité là, notre invité d'aujourd'hui, elle sait ce que signifie 9 mois. Hein, donc. Donc, c'est ça, hein. On aurait pu avoir un bébé, c'est ça, c'est notre bébé. Ce podcast, c'est notre bébé.
Bien
Et
sûr.
oui, on est vraiment content. Merci déjà à Cynthia pour sa disponibilité d'avoir porté ce projet depuis déjà 9 mois. On vous promet qu'on reviendra certainement avec une deuxième saison encore plus outillée. On vous dit merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Les débuts ne sont jamais faciles, mais Dieu dit, ne méprisez pas les faibles commencements. On dit merci à tous nos invités qui ont toujours été là, qui nous ont soutenus. C'est vraiment un plaisir. Comme je dis souvent, à part, c'est vrai que sur cette plateforme, on a parlé d'argent et tout ça, mais ce n'est pas seulement l'argent qui compte. Parfois, nos passions sont importantes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des suggestions de sujets. Et encore, merci. Donc, Cynthia, si tu as quelque chose à dire aux auditeurs avant qu'on introduise notre invité, tu as la parole, ma chère.
Comme Dani, je crois que tu as déjà tout dit. On leur dit encore merci. Vraiment merci encore pour le soutien et tout. Et en plus, même l'invitée d'aujourd'hui, elle nous suit aussi depuis le début. Donc vraiment, vraiment, on vous dit
Merci.
absolument et infiniment merci pour tout ce que vous faites pour nous. C'est vrai que c'est un bébé qu'on nourrit et puis tous les jours, on struggle dans le background pour que les audios soient faits, pour que les enregistrements soient faits, pour vous proposer quelque chose de bon. Donc, vraiment, encore merci pour votre soutien inconditionnel. Enfin, aujourd'hui, je ne sais même pas comment elle va appeler celle-ci. Je ne sais pas, ce n'est pas la sœur de la gloire glorieuse. Donc, bon, la sœur de la gloire glorieuse est partie. Aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, c'est la seule, elle est même plus céleste. Je crois qu'elle a dépassé le niveau de la sœur. Et vraiment, c'est une sœur qui me soutient depuis le début, pas seulement dans le podcast, même dans mes projets personnels, quand j'ai des trucs, même dans la tête, même souvent quand elle me réveille le matin, je lui donne mes idées et puis elle et moi, on en discute, même si ça ne se concrétise pas, avec elle, je discute beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, pour cette fin d'épisode, enfin, cette fin de saison, j'ai décidé, enfin, j'ai voulu qu'elle soit avec moi aujourd'hui, j'ai voulu qu'elle soit avec nous parce que c'est un sujet que elle et moi, on a souvent l'habitude de débattre là-dessus. Et j'aimerais vraiment qu'elle nous donne ce point de vue-là, avec son éloquence, avec. Enfin, je sais pas comment elle va vanter le genre, mais bon, c'est pas grave. Allons seulement. Donc, je vais lui laisser la parole, je vais la laisser se présenter. Christine, à toi la parole.
Yes, merci Cynthia, merci Daniel. Après tout, la talakou, là, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, tu me mets la pression maintenant. Si je fais une présentation un peu en genre, là, on va dire que mais ce n'était
T'inquiète.
pas ce qui était prévu. Donc, merci encore les filles. En tout cas, vous faites du bon boulot. Comme a dit Cynthia, j'écoute depuis l'épisode zéro. Je me rappelle qu'il y avait un épisode zéro. Je me suis dit, pourquoi ils font un épisode zéro? Mais je vous écoute depuis le début et on voit l'amélioration au fil des épisodes. On voit l'évolution surtout. Et ça fait plaisir.
Merci.
Ça fait plaisir de se dire que, en fait, il y a des jeunes femmes comme nous qui s'intéressent à notre condition et qui invitent des personnes qui ont des connaissances sur certains sujets pour nous édifier, en fait. On n'a pas besoin d'aller sur Google ou d'écouter des podcasts de personnes d'autres régions qui ne sont pas forcément nos réalités. Et
Ouais.
ça fait du bien. Ça fait du bien d'écouter. Donc, encore félicitations. Donc, je suis Christine Jaffan-Gommeau. Je suis consultante en informatique, initialement diplômée en finance, et je me suis reconvertie à l'informatique. Mariée depuis un petit moment maintenant. Et comme Daniel l'a dit, je comprends bien les 9 mois parce que je suis à terme là. J'attends mon bébé, j'attends qu'elle arrive. C'est bon, là,
fatiguée, maman, il faut qu'on parle. Félicitations, Cynthia.
Merci. Donc, pardonnez si j'ai la voix un peu enrhumée, machin et tout. C'est que je suis enceinte jusqu'aux narines, en fait. Là, il faut qu'elle me libère. Donc, voilà, voilà.
OK, on croise les doigts, on va prier pour... enfin, chacun dans sa maison. Hein. Pour Christine. Merci pour Christine, beaucoup. Que tout se passe bien, que tout se passe bien. Vous voyez, elle a la chose, elle a le projet à cœur. Enceinte jusqu'au narine, elle est quand même venue. Non, non, non. Là, merci, merci beaucoup, Christine.
Vraiment encore merci, Christine.
Merci beaucoup. Donc, chers auditeurs, pour clôturer cette saison, nous avons décidé de parler aujourd'hui de la résilience des Africains. Je vais un peu expliquer. Suite à un post que nous avons vu, vous savez, il y a de tout sur les réseaux sociaux, mais il est de notre devoir de choisir ce qui nous édifie. Alors, moi, c'était une influenceuse business et elle avait posé une question dans son post. Parle-t-on de la résilience des Africains avec raison ou alors c'est une occasion de plus de célébrer les conditions médiocres en Afrique? Parce que moi, par exemple, quand je parle souvent avec les Occidentaux ou les Américains, ils sont juste souvent comme « Oh ouais, vous êtes ci, vous êtes ça. » Genre, parfois, c'est un peu comme si, comment dire ça, ils nous encouragent. Genre, comme on dit souvent, les Noirs sont faits pour être... pour supporter les conditions difficiles, voilà. C'est souvent un peu quelque chose comme ça. Les Noirs sont faits pour supporter les conditions difficiles. Sauf quand c'est difficile, non, on sait que le Noir ou l'Africain, il va supporter et tout et tout. Donc, c'est un peu dans cette tendance-là que moi, j'ai vu la chose. Et puis, j'ai dit, ah, ça sera important. Et puis, c'est aussi une internaute, je dois préciser, qui nous avait suggéré cela. Donc, moi, j'ai vu ça comme ça. Et puis, j'ai vu que ce serait important d'en parler. Donc, c'est pour ça que... Christine a bien voulu répondre à notre appel par rapport à cela. Donc, moi, je dirais, Christine, est-ce que tu peux un peu nous situer dans quel contexte toi, tu vois les choses? Comment est-ce que toi, tu abordes un peu ce sujet-là?
Je pense que, africain ou pas africain, il y a déjà une grosse dimension contextuelle à prendre en considération lorsqu'on parle de résilience, parce que on le sait, on est tous africains, pour la plupart, on est né sur le continent avant de s'expatrier, donc on a connu des conditions relativement difficiles, si je puis le dire ainsi, avant de venir dans des environnements ici en Occident où les choses étaient plus ou moins régulées, millimétrées, et donc potentiellement plus faciles à comprendre et, et pour lesquelles il faut juste s'adapter. Mais la vérité, c'est que même dans le contexte africain dans lequel on a grandi, il y a eu des personnes qui ont été privilégiées et d'autres pas. Et ça fait qu'à ce moment-là, on n'a pas la même jauge de comment est-ce que la résilience se positionne. Donc, l'influenceuse business qui dit, par exemple, que quand on parle de résilience des Africains, c'est potentiellement une occasion de plus de célébrer la médiocrité des conditions en Afrique. Je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où on a une expression qu'on utilise beaucoup au Cameroun, le « on va faire comment ?» Systématiquement, tu parles au Camerounais, lambda, il y a les problèmes d'électricité, d'eau, de politique, d'éducation, de santé. Ah, le monsieur soulève sa bière et te dit « on va faire comment ?» C'est qu'en fait, il est arrivé au bout du bout. C'est qu'il a vu des gens qui ont essayé avant lui et qui se sont heurtés à un mur et il se dit « si je peux préserver ma petite santé, ma petite stabilité, ma petite famille, en fait, je ne vais pas aller me sacrifier parce que j'ai vu d'autres qui se sont sacrifiés avant moi et le résultat était minable. Donc, tant qu'à faire, je serre les dents, j'essaie de protéger ce qui m'est cher et j'essaie de courber les chines au maximum dans notre contexte. Autant tu as des personnes, potentiellement des jeunes ou des personnes qui ont connu des contextes différents et qui s'insurgent des choses qui sont mal faites, et qui, c'est un truc tout bête, hein. Mais moi, je suis consciente que j'ai été privilégiée du fait que, chez mon père, quand je vivais chez mon père à Douala, au Cameroun, quand il y avait une coupure d'électricité, on pouvait allumer un groupe électrogène.
Ouais.
Du coup, à ce moment-là, quand l'électricité part, moi, je m'insurge, et je dis à mon père, mais pourquoi ils sont tout le temps en train de couper l'électricité? C'est pas possible qu'on vive dans un pays, on est tout le temps en train de couper l'électricité. Mais je ne suis même pas 1%, 3% de la population camerounaise. Encore moins de la population africaine. Donc, moi, je dis quelque part, on célèbre ces conditions, cette médiocrité en Afrique, parce qu'on n'a pas d'autre choix pour la plupart que de vivre avec. Mais je dirais non aussi, parce que quand on sort cet Africain-là de ce contexte-là, on se rend compte que sa résilience tourne plutôt à son avantage. Et c'est ce même Africain-là qui rentre sur le continent et qui choisit de faire les choses différemment et qui choisit de dire, OK, même si je veux lancer une affaire, je choisis de ne pas partir sur les voies de la corruption. Même si je veux lancer, je veux enfin, faire poser une action dans mon village, dans ma famille, quoi que ce soit, je choisis de ne pas faire de telle ou telle façon, selon telle ou telle considération sociale. Et même si je rentre dans un climat hostile, je choisis de mettre en place les mécanismes qui m'aideront à avancer malgré le climat ou l'environnement hostile. Donc, j'ai envie de dire, c'est une épée à double tranchant, en fait. Dans la mesure où, factuellement, pour beaucoup de Camerounais ou beaucoup d'Africains dans un contexte réel, le fait de dire oui, l'Africain est résilient parce qu'il a l'habitude de voir des absurdités et qu'il s'en accommode, c'est une façon de célébrer en fait ces absurdités. Mais de l'autre côté, quand on sort l'Africain de ce contexte-là et qu'il se rend compte qu'en fait, non, ça ne doit pas marcher comme ça, il a déjà tellement bataillé que quand il revient dans cet environnement, il se dit, il est hors de question que je laisse la machine continuer juste à suivre comme ça. Il faut que je fasse quelque chose, en fait.
Ouais, c'est vrai. J'aime bien la façon dont tu illustres les deux points comme négatif et positif.
Mais enfin, je suis d'accord que, enfin, je suis désolée de vous couper, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est pas tous les Africains qui ont vécu cette résilience-là, qui rentrent et essayent de faire changer les choses. Ils essaient juste de suivre ce qui est ou ce qui existe déjà sans, je veux dire, on part dans le fonctionnement. Par exemple, elle a donné l'exemple de la corruption. Il y en a qui trouvent que parce que dans mon pays, il y a la corruption, les choses vont aller un peu plus facilement. Donc, je n'ai pas besoin de venir changer les choses. Ce n'est pas moi qui vais venir changer la corruption au Cameroun. Je prends ça un
Non.
exemple banal.
Tout à fait, c'est un état d'esprit, je pense, parce que y a des gens qui vont clairement te dire ça et l'assumer, hein. Ils vont te dire, je ne suis pas Jésus, enfin moi je suis chrétienne, mais ils vont te dire, je ne suis pas Jésus. Le mec, il a tout payé à la croix, je ne vais pas venir me sacrifier pour des gens. Donc, si je viens et je trouve que c'est comme ça le système est corrompu, le système est penché, le système est machin, je suis avec les moyens que j'ai, je suis. Et si j'arrive à trouver mon bonheur dedans, à trouver mon confort dedans, je m'installe confortablement. Et il y a des gens qui assument totalement ce point de vue. Ce qui est changeant de la génération de nos parents, par exemple, c'est qu'on a une plus grande majorité de personnes ou de jeunes qui sortent du contexte occidental et quand ils reviennent en Afrique, ont la volonté de faire changer les choses. Contrairement à nos parents qui, eux, venaient déjà d'un background où ils avaient été tellement frustrés, tellement mitigés, tellement embrigadés dans des pensées sociétales, machin et tout, que même s'ils se sentaient le pouvoir de faire certaines choses, ils se disaient, gars, je ne vais pas prendre de risques parce que, gars, j'ai mon enfant qui est comme ça, parce que, gars, mes parents m'ont dit que machin. Mais on a une proportion plus importante, nous, cette génération, de personnes qui décident de faire les choses autrement, quitte à se prendre une balle, mais qui décident quand même de faire les choses autrement. Parce que nos parents ont grandi avec les images de Sankara, qui ont été des mini-Jésus, hein, qui ont tous été sacrifiés à l'époque des indépendances. Tous ceux qui ont été des indépendantistes, tous ceux qui ont voulu faire les choses différemment, et Amadou Ahidjo et tout, tous ceux qui se sont levés à un moment contre le système, en fait, ils ont été fusillés, clairement. Du coup, eux, ils avaient une approche un peu plus, encore plus effrayée que nous de la chose, parce qu'ils se disent, gars, ça fait même pas 10, 20 ans qu'on a vu ça. Nous, aujourd'hui, on nous raconte l'histoire de Sankara, on nous raconte l'histoire d'Amadou Ahidjo. Du coup, on a un peu plus de recul et on a un peu moins froid aux yeux que nos parents, en fait. Et on se dit, bah, ouais, mais essayons quand même. Essayons de faire ça. Quitte à ce que ça nous brûle, essayons quand même. Mais nos parents, ils n'avaient pas ce recul-là parce que c'était trop frais, c'était trop réel pour eux, en fait.
OK.
Oui.
Je vois, enfin, je te comprends tout à fait. Mais maintenant, moi, j'ai une question. On va aller un peu plus dans le personnel. On va aller dans le côté où on entre un peu dans la vie personnelle de Christine. Enfin, moi, je connais une partie parce que toi et moi, on a grandi ensemble. Mais est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une résiliente? Enfin, si j'ai bien posé ma question.
Ouais, comme une personne résiliente.
Je me considère comme une personne résiliente. J'ai envie de dire oui, mais de façon très honnête, à un degré motivé. Qu'il faille le dire comme ça. Moi, je sais par exemple qu'aujourd'hui, je vis en Occident, mais j'ai pour ambition de rentrer sur le continent. Et par contre, pour rentrer sur le continent, je me suis très clairement dit, si je ne peux pas avoir telle condition, tel cadre de vie, je ne rentre pas. Oubliez la partie dévotion à la nation.
Mais en fait, non, tu ne peux pas nous dire ça. Tu ne peux pas nous dire ça. En parce qu'on est censé emmener cette condition, chérie.
Le problème, c'est que tu ne peux pas tout faire toi-même. Et ça, pour avoir essayé, parce que je me rappelle, je lance ma première entreprise au Cameroun.
C'est ça que je dis souvent, Cynthia.
En fait, il y a des réalités. Tu ne peux pas tout faire toute seule. C'est que moi, je n'aurais pas été dans un certain contexte. Je n'aurais pas eu un incubateur, par exemple. Je n'aurais pas eu des mentors. Je n'aurais pas eu des gens qui m'ont recommandé pour des clients, machin. Je n'aurais pas pu lancer mon entreprise en 2015, très honnêtement. Du coup, je suis consciente que pour faire les choses correctement, il faut un écosystème et il faut un certain nombre de conditions. Donc moi, je rentre en Afrique, je ne vais pas chercher le confort que j'ai ici en Occident. Je ne vais pas chercher la législation que j'ai ici en Occident.
Okay,
je
là,
ne vais
on
pas
est
chercher
réaliste.
Les produits que j'ai ici en Occident.
Encore plus.
Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas discutable. Par contre, je sais que si je n'ai pas un minimum de X, Y, Z choses dans mon environnement, qui plus est, je vais potentiellement rentrer avec mari enfant. Donc, avoir un certain nombre de choses qui me permettent d'avoir un environnement où je peux élever mes enfants d'une certaine façon, je repousse le retour jusqu'au jour où les conditions là sont remplies. Après, on ne les aura pas toutes, forcément, mais qu'il y ait un minimum quand même pour que je puisse rentrer sur le continent. Donc, moi, je sais que je suis quelqu'un de résilient et je le sais aussi parce que même professionnellement, aujourd'hui, il y a des choses qu'on observe chez nos employeurs occidentaux. On ne va pas forcément tout le temps crier au racisme, crier à la discrimination, crier au féminisme, etc., à la misogynie. Mais il y a des choses que tu vois et que tu sais pertinemment que ça s'est passé comme ça parce que tu n'es pas d'ici. Ça s'est passé comme ça parce que tu es noire. Ça s'est passé comme ça parce que tu es une femme. Donc la résilience n'est même pas seulement au niveau de mes origines africaines. La résilience,
exactement,
au niveau de ma couleur de peau, au niveau de mon genre, tout simplement. Et dans beaucoup de choses, en fait, je me dis, je suis résiliente parce que, comment dire, il y a des choses que tu ne peux pas commencer à changer maintenant. C'est tellement ancré. Il faut que tu prennes petit à petit, petit à petit. Donc, pour certaines choses, tu vas devoir être résilient. Autant pour certaines choses, tu vas arriver en mode bulldog, tu vas péter la porte, tu vas dire, je ne veux pas, je n'accepte pas. Je ne cautionne pas. Autant pour certaines choses, il va falloir boire de l'eau, beaucoup d'eau.
Et dormir un peu.
Et avancer. En fait.
Très glacé, très glacé.
Voilà.
La partie glacée de l'eau, là.
C'est tout à fait ça.
Ben, moi, je dirais, bon, on prend plus africain déjà parce qu'on est africain et aussi à cause du, je ne sais pas si je vais dire stéréotype, mais le fait qu'on dise que on doit rentrer chez nous pour bâtir. Sinon, qui va bâtir? Ça, c'est l'argument préféré de Cynthia. C'est ça.
Non, Daniela, c'est en train de me provoquer parce que je ne comprends pas. Elle-même, elle a dit la même chose que moi. Si,
oui,
il faut que tu vois que tu
non.
peux rentrer chez toi.
Oui, moi,
Daniel,
je
Daniel, pas
que...
besoin de te justifier. Je connais Cynthia depuis le berceau. Et Cynthia a toujours le même discours. Quand on était au Cameroun, quand on a quitté le Cameroun, on la connaît au quartier. Mais
bon,
te justifie la
laisse là dans
je dis parce que je trouve que...
Combattez-vous.
Ta réponse est justement, tu essayes toujours de montrer les deux côtés. Donc moi, je voulais déjà dire que déjà, vouloir rentrer et tout, c'est exprimer de la résilience, moi je trouve, parce qu'on sait que. Mais maintenant, quand tu parles des conditions, est-ce que tu penses que même le minimum là sera rempli? Quand toi, tu. Parce que si tu veux encore repousser, c'est que tu vas jamais rentrer. Les conditions ne seront jamais totalement réunies, même le minimum là. Donc, en fait, quand j'essaye d'analyser les deux tendances que tu donnes, moi je vois la résilience en vouloir rentrer en Afrique, que moi j'apprécie. Mais maintenant, je dis, si les conditions ne sont pas réunies là, jamais, jamais, tu vas toujours pas rentrer.
Je ne peux pas dire jamais, jamais, parce que j'ai eu la grâce d'épouser un homme qui partage la même vision que moi. Pour
OK.
lui, on est en Occident pour un but précis. On est venu
OK.
prendre des compétences, on est venu prendre des finances, et après on se barre. Ça, c'est non
Ouais.
négociable. Maintenant, les conditions, on les a établies ensemble. Les conditions, on en discute ensemble. S'il faut les revoir, on les revoit ensemble. Je sais pertinemment que les conditions seront potentiellement remplies à un moment. Et le plus vite ça se remplit pour nous, le mieux c'est. Parce que honnêtement, payer les billets d'avion d'ici là pour n'importe quel pays en Afrique, c'est cher. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Donc, au moins quand tu es déjà sur le territoire, tu es sur le continent. Bon, les billets, les voyages intercontinentaux africains, c'est encore une autre histoire en termes de finances. Mais on sait qu'on veut rentrer et on sait qu'à un moment, il va falloir qu'on rentre, même si on n'a pas tout ce qu'on voulait. C'est pour ça que nous, on a dit il y a des conditions minimales parce que c'est ce qui va nous sécuriser, c'est ce qui va sécuriser surtout l'avenir de nos enfants. Mais ce ne sont pas des conditions de confort personnel, si je puis dire comme ça. Je ne dirais jamais, ah, je rentre en Afrique si je n'ai pas la maison 5 chambres. On a mis mon père à travailler 20 ans, 30 ans pour construire la maison 5 chambres. Donc, je vais vouloir ça après 5-10 ans d'expérience professionnelle. Comment, pourquoi? Donc, je suis consciente en fait qu'il y aura un niveau d'exigence qui ne sera pas respecté. Ça c'est tout simplement la réalité. Mais il est important. Il est important qu'on rentre sur le continent, qu'on fasse profiter le continent de nos compétences. Autant moi je pense comme ça, autant nous on a des amis de la famille très proches. Qui sont aussi Camerounais, qui sont Sénégalais, Ivoiriens, voilà, et qui nous disent clairement, nous, on ne rentre pas, en fait. On ne rentre pas, on n'est pas là, on n'est pas venu pour souffrir. Enfin, vous êtes résilients, vous êtes bien mignons, mais nous, on reste en France parce que la France nous donne tel cadre. Nous, on reste au Canada parce que le Canada nous donne tel cadre. Nous, on reste au Luxembourg parce que le Luxembourg nous donne tel cadre. Enfin, après, chacun son confort personnel, mais vraiment, il y a cette mentalité, comme je le disais encore au début, où personne ne veut être l'agneau immolé parce que Jésus a déjà souffert à la croix, en fait.
Ben, c'est
Donc,
ça. Quand
ouais.
moi je vois les choses, c'est même pas en termes de confort personnel. C'est plus, comme je dis souvent, si par exemple tu veux rentrer faire des business, comme moi, les chaînes de business, ce que je suis souvent, ben, il y a des exemples terribles et même des gens que je connais, genre, tu as voulu faire un business et puis on t'a mis les bâtons dans les roues. C'est surtout ça. Parce que c'est pour ça que j'ai aimé quand tu as dit, on ne peut pas tout faire seul. Moi, ce n'est même pas le confort personnel. C'est en termes de développement de business. Les gens, quand ils entendent que tu viens de l'extérieur, ils font tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Ce n'est pas des choses au hasard dont je parle là, des exemples vécus et que j'entends encore tous les jours. So, parfois, moi, ça me décourage. Donc, c'est un peu ça. C'est souvent sur ce point-là que j'insiste souvent quand les discussions que j'ai eues avec ma co-host, l'investisseur en
Tu
Afrique.
vas lire, tu vas rentrer même par force. Non, mais je te comprends totalement. Mais par contre, ce point des affaires en Afrique, il y a un environnement business en Afrique qui peut être très hostile. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour avoir fait des affaires en Afrique et en Europe, les environnements hostiles, ça existe partout. La seule différence, c'est comme tu as dit tout à l'heure, l'environnement. Et c'est pour ça que on ne peut pas faire les choses seules. Tu t'imagines, tu investis dans un projet à compétences égales, opportunités égales, budget égal, machin, au Cameroun et en France. Tu as un contrat de partenariat avec l'entreprise. Si tu entres même dans l'actionnariat, tu as un contrat d'actionnariat dans un pays ou dans l'autre. Mais en fonction de où l'entreprise est située, si l'entreprise est située au Cameroun, il y a des voies légales, même si tu vas jusqu'au procureur de la République, même si tu vas jusqu'au président de la chambre de je ne sais pas quoi. Si quelqu'un veut te mettre des bâtons dans les roues, c'est tellement, tellement plus facile parce que l'environnement est déjà gangréné d'un certain niveau de corruption. Il suffit que les personnes aient accès à un certain niveau de personnes et c'est tout. Alors qu'en France, j'ai envie de dire, l'aspect juridique est tellement, tellement beaucoup plus épineux que même si tu te bats contre un géant, tu as tellement de moyens de faire recours, toi, le petit investisseur, pour que les choses se passent bien, pour que tu puisses rentrer dans ton droit. Oh, il y a beaucoup de personnes qui font de la fraude, de la corruption et tout en Occident. Hein. Ce n'est pas... Ça, ce n'est une nouvelle pour personne. Mais ce que je veux dire, c'est que à opportunité égale, à budget égal et à capacité d'investissement pour toi égale, tu te mets en France, tu te mets au Cameroun, tu as beaucoup plus de sécurité en investissant dans une boîte française, pas forcément gérée par des Français, parce que les Français peuvent être des filous. Hein. À opportunité égale, tu es beaucoup plus sécurisé en investissant en France parce que tel texte de loi va t'aider, parce que le contrat d'actionnariat régit que le tribunal de tel va séparer l'affaire ou va juger l'affaire si vous faites X, Y, Z. C'est que même dans ta tête, en fait, il y a un niveau de stress qui diminue un minimum quand tu investis. Parce que tu sais que le jour où on veut te la faire à l'envers, les moyens de recours que tu as dans les mains déjà sont nombreux, de un, et de deux, la probabilité qu'ils aboutissent sont 10 fois, 20 fois, 30 fois supérieures à si tu étais au Cameroun. C'est un truc tout bête comme ça, en fait. Donc, forcément, je pense qu'il y a de la corruption partout, il y a des filous partout, en affaires, développement des opportunités d'affaires, ouais. Mais en Afrique, il faut une couche de résilience de plus lorsqu'on investit, parce qu'il faut faire avec cette contrainte-là, qu'on n'affiche pas souvent, hein, mais la contrainte psychologique. Parce que quand tu décides d'investir dans un projet en Afrique, tu pars toujours avec la potentialité que... Sauf que cette potentialité que là, on ne la renseigne pas dans un business plan. Hein. On ne la renseigne pas dans comment c'est tu ça. Évalues ton opportunité d'affaires. C'est ton mental, tu gères. Et si ça ne se passe pas comme tu le souhaites, tu assumes les conséquences seul. Malheureusement.
Exact. Et comment est-ce que tu dirais que ton éducation en Afrique contribue à te bâtir aujourd'hui en France, précisément où tu es?
Éducation de scolaire, familiale.
Disons ce que tes parents t'ont appris. Forcément, c'est des mœurs africaines. Oui. L'éducation, je veux dire, en général, quoi, ce que tu as appris étant chez tes parents, dans un cadre africain.
Alors, je pense que j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui étaient hyper ouverts d'esprit. Mon père, c'est un ancien polytechnicien de Nancy, ici en France. Okay. Et tu vois, quand je te disais tout à l'heure, nos parents, ils ont une vision différente des choses. La première fois que mon père a eu sa bourse en tant que jeune diplômé pour venir étudier l'ingénierie ici en France, il n'a même pas dit à son père, à lui, qu'il partait. Parce que pour son père, les seules fois où il se rappelait avoir entendu parler d'avion, c'était pendant la guerre. Son père était enseignant. Du coup, mon grand-père ne visualisait pas dans quelle mesure vivable ou invivable, son enfant, son premier fils allait entrer dans un avion alors que c'est les choses de la guerre. Non, juste non. Donc, mon père a eu sa bourse, il est parti, il est venu en France étudier et c'est arrivé ici parce que mon grand-père ne le voyait plus. Du coup, forcément, il dit à ma grand-mère, ton fils est où? Et que mon père lui écrit une lettre pour lui dire qu'il est venu poursuivre ses études, chercher un avenir meilleur, qui va bien, il a survécu au ventre de l'oiseau, patati patata, ce n'est exactement pas... Alors que moi, je me rappelle, j'ai eu des bourses pour aller faire des trucs à l'international. Mon père, il me dépose à l'aéroport, il me donne sa carte Visa, bisous, bye. Ce n'est exactement pas du tout le même contexte.
Oui.
Donc, je pense que j'ai déjà la grâce d'avoir...
Tu ne me disais pas.
Cynthia, s'il te plaît, est-ce que tu peux te concentrer? Tu
vois. On va régler ça après. Continuons.
Non, mais ce que je disais, c'est que j'ai eu la grâce d'avoir eu des parents hyper ouverts d'esprit.
Okay.
Du coup, j'ai une mère qui, elle a étudié la finance et tout. Et elle a travaillé dans des boîtes comme Citibank, ou même si c'était Citibank Cameroun, elle était habituée à travailler avec des personnes qui avaient une certaine ouverture d'esprit, une
Oui.
certaine rigueur dans le travail. Donc, à la maison, déjà, c'était, j'ai envie de dire, un non négociable. C'est qu'il y a le contexte africain, certes, il y a le contexte sociétal, il y a les choses que la famille va te dire. Les parents sont conscients, hein, ils sont conscients que quand tu sors de la maison, là, même si c'est seulement pour aller à l'école, tu vas voir des choses, les gens vont te dire des choses, des camarades de classe, des professeurs et tout, qui peuvent ne pas aller dans le sens de ce qu'eux, ils te disent à la maison. Mais ils se rassurent qu'à la maison, ils te donnent un environnement ou un contexte pour que tu vois de façon palpable le bien fondé de ce qu'ils essayent de te transmettre. Donc, mes parents ont toujours été intransigeants sur des valeurs telles que le respect, telles que la vérité, telles que l'honnêteté. Et ça, c'est des choses. Que ce soit dans le cadre familial, amical, scolaire, business et tout, c'est des valeurs fondamentales. Si tu es quelqu'un qui a appris à respecter à la maison, quand tu sors de la maison, il n'y a pas de raison que tu ne sois plus respectueux. Et ça t'aide dans le travail, comme ça t'aide dans les affaires, comme ça t'aide dans tes relations avec les autres êtres humains, en fait. Que tu sois au Cameroun, en Indonésie ou, je sais pas, au Bangladesh, quoi. Donc, je pense que l'éducation que mes parents m'ont donné, qui était fondée sur certaines valeurs, m'a beaucoup aidée dans le sens où ça a aussi forgé ma résilience. Parce que honnêtement, il y a des choses que j'ai pu surmonter. On peut se dire, ah, Christine, elle est résiliente, elle est passée par cette épreuve, mais je pense que c'est parce que mes parents m'avaient dit qu'il faut être respectueux. Sinon, il y a des choses ou des que j'aurais dit aux gens, que j'aurais fait aux gens. Mais parce que juste parce que dans ma tête il faut rester respectueuse, juste parce que dans ma tête il faut un minimum d'intégrité en fait vis-à-vis de certaines situations, juste parce que dans ma tête ce n'est pas, mes parents m'ont dit, ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un faire mal que tu vas faire mal, ça ne marche pas comme ça. Si tu sais que c'est mal, tu ne le fais pas. Donc tu arrives dans un environnement où les gens corrompent pour passer pour machin et tout, ce n'est pas pour autant que tu vas corrompre, suis la voie légale. Et si ça marche, ça a bien marché. Même si ça ne marche pas, au moins tu en sors de là en te disant, j'ai fait ce qu'il fallait. Je veux dire, la première fois que j'ai vu mes parents utiliser comment ça s'appelle, des chemins parallèles, c'était par rapport à nos passeports. Parce qu'à l'époque, pour avoir un passeport au Cameroun, la croix et la bannière. Même prendre juste un simple rendez-vous, c'était quelque chose. Et je me rappelle, on avait un truc urgent. Mon passeport expirait, etc. Et c'est la première fois que mon père m'a dit, OK, tu vas avec ta mère à Yaoundé, vous allez aller dans tel bureau, vous voyez telle personne, elle va vous emmener à tel endroit, et quand tu as fini de remplir tes informations, tu lui donnes telle enveloppe. C'est tout. C'était un vendredi, lundi, on a appelé mon père. Le passeport de votre fille est arrivé à Douala. Et là, je me suis dit, mais... Ça faisait quand même un peu 3 semaines, 4 semaines qu'on se tuait ici, là. On voulait faire le passeport. Comment est-ce que soudainement... Enfin, je pense que mes parents, à ce moment, ils se sont rendus compte que je me suis dit, il y a un vice rouge quand même. C'est chelou, votre truc. C'est
Oui.
pas le système légal.
C'est pas
Non,
le
non, non.
système.
Mais voilà,
Maintenant.
c'est... Je pense que l'éducation que j'ai reçue de mes parents, le fait de me dire les valeurs d'abord... On fait que, oui, on fait de moi quelqu'un de potentiellement résilient, de quelqu'un de potentiellement qui essaye d'être droite dans le maximum de choses. Après, je pense que ma foi aussi, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis chrétienne, il y a certaines choses que je ne fais pas, pas parce que je ne peux pas. Et ça, Daniel, si tu as pu te le dire, enfin, je fais du maniement d'armes blanches, je suis karatéka, donc souvent je pourrais même taper les gens, vrai, vrai. Genre, si je suis énervée, même. Je vous demande un service, vous ne
Tu fais
faites pas, je peux
exploser
vous
une pièce.
taper. Mais je pense que quand je pense à ce que je dois dire à Dieu le soir, quand je vais me coucher, je me dis, mieux je lis ma Bible. Mieux je lis ma Bible et je bois beaucoup d'eau une fois de plus. Je pense que l'eau, c'est vraiment la vie. Honnêtement. Il faut boire beaucoup
De
d'eau parce
choses.
qu'il y a certaines situations où vraiment tout ce qui peut t'aider, c'est boire de l'eau. Quand je dis boire de l'eau, Cynthia, s'il te plaît, je parle de l'eau, pas l'eau en vin. Je parle de l'eau. C'est la vie d'alcoolisme. Donc,
je connais. Je bois de l'eau plate. Allons seulement. Bon, maintenant, sans toutefois devoir te couper la parole. Enfin, on parle de personne résiliente et tout. Maintenant, si on est dans un environnement où beaucoup de gens laissent leur pays, ils vont en Occident et ils se cherchent. Arrivés là-bas, ils ont la hargne de travailler, ils ont la hargne de faire mieux, de faire toujours plus pour qu'on les respecte. Mais malgré ça, les étrangers, ils nous traitent toujours avec une bassesse que souvent on se rend compte que mais attends, est-ce que je suis obligée d'être là, je peux rentrer dans mon pays demain matin et puis je m'en fous de vous en fait, mais on force toujours soi-disant il y a tel ou il y a tel là, au pays qui nous attend et tout. Est-ce que tu penses que c'est aussi une résultante de notre résilience?
J'ai envie de dire oui potentiellement et non quelque part. Pour répondre à ta question sur le fait que potentiellement nos patrons en Occident utilisent le fait qu'ils sachent qu'on soit d'origine africaine, donc qu'on vient d'un environnement plus hostile, potentiellement qu'on soit plus résilient, pour nous martyriser, nous mettre des bâtons dans les roues. Comme à chaque fois, je pense qu'il y a deux pans de réponse à la question. Je pense qu'il y en a qui font fi de la situation. Ils s'en foutent totalement. Tu as la compétence pour faire ce pourquoi on te paye. Tu fais ce pourquoi on te paye. Et puis, voilà. C'est 9h, 18h. Après 18h, je ne te vois pas. Avant 9h, je ne te vois pas. Donc, basta. Tu as vraiment des gens qui raisonnent comme ça et qui le fait qu'ils savent que tu viens d'un pays où tu as connu certaines conditions, où, voilà, machin et tout, ils ne font pas du tout état de ça. Ils te traitent de la même façon que les autres. Pour autant, il y a des personnes qui ont ce complexe, c'est un fait, hein, ce complexe de supériorité parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont européens, parce qu'ils sont occidentaux, et ils se disent, on va drainer cette ressource jusqu'à la dernière goutte. Donc, tu es sur des compétences techniques que tu as bien. On va peut-être vendre un projet à un client. Moi qui suis consultante en informatique, je vois ça, hein. Je vois ça souvent. On va vendre un projet à un client. En tête d'affiche, on va mettre plein de Caucasiens là qui ne savent rien foutre. Et puis toi, on te met, ou éventuellement même on ne te met pas dans l'équipe, le PowerPoint de présentation de l'équipe. Mais c'est toi qui fais tout le boulot en background. Et en fait, on sait que tu vas courber les chines parce que tu es venu là pour chercher le poi, comme disent les Ivoiriens. Tu es là pour le jet. Donc, tu sais qu'on va bien te payer à la fin du mois. Du coup, tu vas fermer ta bouche. Mais en fait, il y a de plus en plus de personnes qui ouvertement le disent. Ça ne passe pas. Si c'est moi qui ai fait le travail, présentez-moi comme le consultant compétent. Ne partez pas mettre de petits blancs becs parce qu'ils sortent de bonnes universités et qu'ils sont blancs. Sous prétexte que ça passera mieux en termes marketing, en termes présentation au niveau du client, alors que c'est moi qui me tape tout le boulot en fait. Alors que quand il y a des réunions d'évolution, c'est moi qui dois tout expliquer. Si ces personnes n'ont été compétentes, qui fassent des réunions, qu'ils expliquent au client alors ce qui se passe. Ne venez pas me refiler le travail. Moi, je sais, en tout cas dans le secteur de l'informatique, j'ai beaucoup vu ça. Dans le secteur du conseil, audit, tout ce qui est finance, je l'ai beaucoup vu aussi. Des Africains, et pas que des Africains, des Africains, des Arabes, des gens du Moyen-Orient, très compétents, mais qu'on laisse toujours en background parce que pour certains clients, ça présente mieux qu'on mette des petits Français devant. Et je pense qu'à ce moment-là, ça, c'est un point vraiment assez vicieux parce que ça veut dire que de un, tu as une hiérarchie qui accepte ça, mais de deux, tu as une clientèle dont les mentalités n'évoluent pas parce que ta hiérarchie continue à se plier à ça, en fait. Donc, on est dans un cercle vicieux et il y a des clients qui s'attendent toujours à ce que ce soit des petits blancs qu'on leur présente, alors qu'en fait, non, c'est vous, les expats, qui vous tapez tout le boulot en background. Donc, oui, j'ai vu des cas concrets où des gens ont été discriminés malgré leurs compétences parce qu'on se dit, oui, En tant qu'Africain, en tant qu'Arabe, oui, mais voilà. Mais de la même façon, il y a des gens, en tout cas moi, mon manager actuellement, il s'en fout, mais totalement. Je me rappelle, il y a une cliente qui est, on va dire la française bourgeoise, qui a beaucoup de mal avec tout ce qui est issu de l'expatriation, et qui clairement me montrait qu'elle avait un problème avec le fait que déjà je sois une très jeune femme, mais en plus que je sois noire. Et elle m'a dit des choses, elle a eu des positions à un moment. Je ne lui répondais plus par téléphone, je répondais que par mail. Elle s'est permis, en fait, de dire un certain nombre de choses. Et ce jour-là, elle a fait une boutarde. Elle s'est rendue compte de la boutarde, sauf qu'elle ne pouvait pas ravaler ce message. Donc, elle m'a appelée 22 fois, alors que j'étais chez un client. J'ai dit, très bien. J'ai fait des captures d'écran de tout ça. J'ai envoyé à mon manager. Il n'a pas supporté. Pourtant, il est franco-français. Ce n'est pas comme si il était d'une autre origine, donc il comprenait ce par quoi je passe. Non, il est français, français. Du coup, il a pris ça, il a mis en copie les ressources humaines, le juridique, le service commercial. Déjà, on bannit cette cliente-là, on ne travaille plus avec elle. En plus, on lui fait des poursuites parce que ça ne peut juste pas se passer comme ça. Elle n'a aucune raison de traiter nos consultants comme ça. Donc, oui, il y a des personnes qui en profitent, certes. Mais je pense qu'il y a aussi dans le management, en tout cas, ici, ce que moi je vis, il y a des personnes qui sont basées purement sur la compétence. Que tu sois blanc, noir, vert, jaune, homme, femme, grand, petit, gros, mince. Tu fais le boulot, oui, ok, tu es là, on te paye à la fin du mois et puis on avance. C'est aussi simple que ça, en fait.
Vraiment, c'est des choses rares. Et même si il y a des personnes, ce sont des personnes qui sont rares et pas nombreuses.
Alors, Cynthia, j'ai vraiment eu du mal à entendre ta question. C'était assuré.
Non, je disais que ce sont des personnes à féliciter parce qu'elles sont rares. Des personnes comme ton boss, ce sont des personnes à féliciter. Désolée, j'ai eu un petit problème de connexion, mais ce sont des personnes à féliciter. Mais maintenant, avant qu'on ne clôture, j'ai une dernière question. Qui est, aujourd'hui, on a nos petites sœurs. Toi-même, tu as des petites sœurs qui sont, il y en a qui sont même déjà à la fac, il y en a qui sont en route pour la fac et qui vont aussi se retrouver confrontées. Parce que quand on était à l'université, on ne savait pas que être noir ou être femme devrait nous poser un problème parce qu'on a grandi dans une société où on nous a fait comprendre que l'homme et la femme, enfin je préfère dire famille parce que dans notre société, il y a encore des gens, on a grandi dans des familles où on nous a dit l'homme et la femme sont de parties égales, elles ont droit aux mêmes choses que les unes comme les autres. Donc tu as des petites soeurs qui viennent derrière toi, tu as des gens qui viennent, qui t'écoutent même aujourd'hui, des personnes qui aimeraient aussi prendre exemple sur toi. Quel est le conseil que tu donnerais à nos petites sœurs aujourd'hui qui sont en train d'aller peut-être à l'Occident, qui vont se retrouver dans un pays qu'ils ne maîtrisent pas, ils vont se retrouver en train de subir tout ce genre de choses parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont noires?
Petite sœur ou pas, juste le fait d'être africain et de sortir du contexte africain, comme on dit, on ne met pas le cœur, honnêtement. On ne met pas le cœur parce que moi, je vois beaucoup de certains de nos compatriotes, hein, ou juste des Africains, ou d'autres personnes issues de l'expatriation qui viennent ici étudier et puis qui travaillent. Et qui ont des réactions très, très épidermiques à certaines choses. Parce qu'ils viennent d'un pays où, vu que moi je suis camerounaise, je viens du Cameroun. Au Cameroun, on a toujours fait comme ça, on m'a toujours respectée comme ça, on a toujours. Donc, être dans un pays avec un système différent où tu as l'impression qu'on écrase un peu tes considérations précédentes, tu as des personnes qui ont des réactions très épidermiques, très impulsives, et qui peuvent les mettre dans des problèmes en fait. Alors que si la personne s'était assise 3 secondes, avait essayé d'y mettre un peu plus de sagesse, avait essayé de rechercher un peu plus avant de répondre, la personne s'en sortirait beaucoup mieux. Donc le premier conseil, c'est d'éviter d'être impulsif. Parce que c'est vrai que le système occidental est beaucoup plus millimétré dans plein de choses, mais le système peut être très écrasant. on peut être sur un rythme très oppressant. On fait du 9h-18h pour le boulot, de la même façon qu'on ferait du 8h-17h au Cameroun, certes. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas comme au Cameroun où tu peux te permettre d'avoir une femme de ménage à un certain montant. Ce n'est pas comme au Cameroun où tu peux te permettre d'habiter à 20 minutes de ton boulot. Ce n'est pas comme au Cameroun où tu as ta famille potentiellement, tes amis, quelqu'un pour t'aider, pour te soutenir dans des tâches. Non. Tu es dans un système où, moi, venant du Cameroun, je suis passée par le Sénégal. Mais même si au Sénégal, ils ont l'hivernage, je n'avais jamais vécu l'hiver, par exemple. C'est une phase qui peut être très, très, très déprimante. Même si tu es la personne la plus, c'est-à-dire la plus dynamique, solaire du monde, c'est des changements que tu ne connais pas et auxquels il faut t'adapter. Donc, il faut se mettre dans une position d'humilité, une position d'adaptation et ne pas se mettre dans une position d'impulsivité en se disant, d'où je viens, j'avais droit à ça, donc je veux ça ici aussi. Ça ne marche pas comme ça. Que ce soit le cas de la France ou quelque autre pays du monde, hein, je pense que pour avoir changé souvent, très souvent de pays de résidence, c'est une des choses qui m'a beaucoup aidée. C'est le fait de me mettre dans la posture de la personne qui s'adapte d'abord. Donc, s'il y a un conseil que je puis donner, c'est ça. C'est se mettre dans la position de celui qui s'adapte. Et celui qui s'adapte, c'est celui qui apprend. Ce n'est pas celui qui vient en disant, moi, chez moi, j'avais ça, je veux ça. C'est celui qui vient en me disant, OK, je suis venu chez vous, comment ça se passe chez vous? J'ai vécu au Sénégal, par exemple, qui est une société. C'est en fait au Sénégal, ceux qui vivent en tant qu'expatriés au Sénégal, tu as deux expériences totalement radicales. Très peu de personnes sont au milieu. Tu as des gens qui ont beaucoup aimé le Sénégal, ou tu as des gens qui sont en mode oui, mais non. Parce qu'ils sont très communautaristes. Ça, c'est un fait. Et le fait aussi qu'ils aient une langue nationale qu'ils parlent tous, tu te sens rapidement exclu, en fait. Même au boulot, tes collègues sénégalais, enfin, j'ai envie de dire, c'est naturel, instinctif pour eux de parler en wolof. Mais ils ne veulent pas forcément te discriminer, mais c'est instinctif. Donc, toi, tu ne peux pas venir de l'extérieur et venir leur dire, tu dois te comporter comme ça parce que moi, je viens de l'extérieur. C'est comme si tu viens en France et tu dis aux Français, non, tu ne peux pas cuisiner du bœuf bourguignon quand je suis là, parce que chez moi, on ne met pas le vin rouge dans la nourriture. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Tu es venu trouver des gens avec leur habitude, leur système établi. Donc, il faut que la jeune femme qui s'expatrie, en Occident surtout, ou partout ailleurs, se mette dans la position de je dois m'adapter, je viens trouver un environnement, j'essaye de comprendre comment ça marche. Je prends ce qui m'arrange. Ce qui m'arrange, moi, je ne le prends pas. Mais surtout, je reste humble vis-à-vis de ce que j'ai dans mon environnement. Parce que de toutes les façons, tu seras toujours en minorité numérique, sociétale, quoi que tu veuilles. Et ça te brise beaucoup plus vite si tu ne t'armes pas d'humilité si dans ces contextes-là. Après, pour certaines personnes, c'est cette humilité-là qu'ils appellent la résilience parce qu'ils se disent, oui, tu arrives à passer outre telle situation. Oui, telle autre personne se serait fâchée ou se serait courroucée par rapport à telle ou telle situation. Mais en fait, non, c'est que tu viens chez quelqu'un d'autre. Il ne faut pas oublier ça. Autant au Cameroun, on sait qu'on est très, très hospitalier. Quand quelqu'un vient de l'extérieur, on veut lui faire manger tout ce qu'on mange, boire tout ce qu'on boit, visiter tout ce qu'on visite. Autant, on n'a pas à poser cette obligation à l'autre quand on vient chez l'autre. Donc, que tu sois femme, que tu sois noire, que tu t'expatries dans quelque partie du monde, viens avec la posture d'humilité, viens avec la posture de je m'adapte, viens avec la posture de j'apprends. Parce que la vie en société, c'est un apprentissage, comme tu apprends à l'école. Tu apprends de nouvelles mœurs, de nouvelles façons de faire, et surtout, tu apprends de nouvelles leçons de vie. Et comme je l'ai dit, tu prends ce qui t'arrange parce que tu as tes valeurs, tu as ta façon de voir les choses. Ce qui t'arrange le moins, tu mets de côté, tu ne suis pas, tu ne gères pas littéralement en fait.
Ok, enfin, on dit encore une fois de plus merci à Christine pour son intervention. Je ne sais pas si Dany a une autre question pour Christine avant qu'on ne clôture.
Non, moi, je n'avais pas de questions. C'était, je voulais juste savoir comme si peut-être il y a des gens qui passent. Est-ce que tu as quelque chose à dire à propos, comment ça se passe pour trouver des incubateurs au Cameroun? Parce que moi, je n'ai jamais su comment ça se passe et je me dis que c'est une option qui peut aider aussi beaucoup de personnes qui sont sur place, you know? Donc, pour moi et même pour les auditeurs, comment est-ce que ça se passe?
Alors, pour trouver des incubateurs, moi, j'avoue que vu que j'étais dans mon entreprise et dans le domaine du marketing digital, déjà, j'étais sur une niche qui est plus ou moins médiatisée sur Internet. Donc, moi, je suis passée par les réseaux sociaux, je suis passée par Twitter, je suis passée par des personnes que je connaissais qui étaient aussi dans le domaine du digital au Cameroun. Mon incubateur s'appelle Active Spaces. Il est à Douala, il est à Boyard, il est à Bagante. Après, moi, je connais un incubateur et par le biais de cet incubateur-là, j'ai côtoyé d'autres entrepreneurs. Et maintenant, on a des incubateurs comme le Boukarou, qui est situé à Ndokoti, à Douala, et où ce ne sont pas que des entrepreneurs tech, qu'on prend. Il y a des gens qui sont dans l'agriculture, dans l'habillement, dans le transport, dans
Ouais.
la technologie. Et en fait, l'avantage, c'est que lorsque on a déjà une fois été dans un incubateur ou en contact avec quelqu'un d'un incubateur, ça marche un peu comme un compas. Enfin, on est le point central et il y a toute une sphère à côté qu'on apprend à découvrir. Après, quelque chose qui est très bien aussi, c'est aller aux événements. Moi, j'ai beaucoup fait ça. Je rejoins des communautés. J'étais dans le digital, du coup, j'ai rejoint la communauté des ambassadeurs de Mozilla Firefox, des développeurs Google et Tessera. Et ça m'a fait rencontrer d'autres personnes. J'ai fait du blogging, j'ai rejoint l'association des blogueurs camerounais. Ça m'a fait rencontrer d'autres personnes. Donc, je pense que, voilà, pour découvrir des incubateurs ou du moins même avoir des communautés de personnes qui sont dans notre domaine particulièrement, il faut chercher un point focal. C'est tout. Dès qu'on a un point focal, on grappille, on essaie de léviter autour, en fait, et on rencontre des gens, on découvre des opportunités, on découvre des communautés, on découvre des incubateurs. Mais s'il fallait que je parle d'un incubateur que je connais bien, ce serait Active Spaces à Douala. Mais eux, ils sont spécialisés dans le digital. Et le Boukarou à Douala aussi. Et qui, eux, sont sur plusieurs domaines et voilà, avec de très bons accompagnants et formateurs, en fait.
Oh, merci beaucoup pour l'info. J'aurais bien aimé quand j'étais au Cameroun recevoir ces informations. Mais merci beaucoup. C'est vrai que, parce que moi, par exemple, c'est ici que j'ai appris à faire réseautage. Le réseautage est important. C'est vrai qu'on néglige beaucoup ça en Afrique parce que, bon, déjà, on a l'habitude de dire, bon, je connais tel, je connais tel. Mais vraiment, les événements spécialisés dans le professionnel, où est-ce qu'on veut aller, oui, on n'y pense pas souvent. Mais pour nos sessions entrepreneuriat aussi, ça va aider. Et puis, on va encore le rappeler à tous ceux qui aimeraient se lancer dans le digital ou autre chose, d'y faire un tour. Ben, merci
Tout à fait.
beaucoup, Christine.
Merci à vous, enfin, Cynthia et Daniel, de m'avoir reçu. Merci pour la conversation.
Oh,
Surtout.
merci à toi. Et encore, on te souhaite un très, très bon congé de maternité. On prie Dieu que tout se passe bien. Et je suis
Amen.
sûre que nos auditeurs, en écoutant, auront une pensée positive également pour toi. Et également, bonne chance dans la suite de tes projets. Peut-être qu'on viendra te voir pour des consultations informatiques ou bien d'autres choses. Ce fut un plaisir de discuter avec toi. Merci à vos
Plaisir
chers
partagé.
auditeurs. Cynthia, tu veux pas donner un petit cri de guerre? Yay!
En tout cas, merci
On
encore
est
pour ce que j'ai à
content! On a fait une saison, on est content!
dire. Je suis tellement contente. Ça c'est le dernier épisode, non? Enfin, en tout cas,
Oui!
Christina, j'espère que tu vas nous porter chance.
Ça, amen, amen, amen.
Oui, on peut faire, on aura peut-être des activités sur Facebook ou Instagram, mais c'est le dernier qui sera enregistré sur nos différentes plateformes que vous connaissez déjà, Anchor, Google Podcast, Spotify, Apple Podcasts, Radio Public and Breaker. Yeah, that's sont les main platforms. So, on va peut-être organiser des activités durant l'été, mais c'est le dernier qui sera enregistré. Donc, si vous pouvez re-suivre, partager pour nous soutenir, on serait encore plus que grateful. Donc, thank you to all our English people. It was a pleasure. It was amazing. We're gonna come back with more English guests. Promise. Thank you, guys. So, see you next season. Ben, vous pouvez dire bye bye. Hein?
Bye. See you next
bye. Bye.